Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, 1854. Traduction de Louis Fabulet, 1922. Je ne propose pas d'écrire une ode au découragement, mais de claironner aussi vigoureusement qu'un coq au matin, debout sur son perchoir, ne serait-ce que pour éveiller mes voisins. Chapitre 1. Économie. Quand j'écrivis les pages suivantes, ou plutôt on écrivit le principal, je vivais seul dans les bois, à 1 mille de tout voisinage, en une maison que j'avais bâtie moi-même, au bord de l'étang de Walden, à Concord, Massachusetts, et ne devais ma vie qu'au travail de mes mains. J'habitais là 2 ans et 2 mois. À présent, me voici pour une fois encore, de passage dans le monde civilisé. Je n'imposerai pas de la sorte mes affaires à l'attention du lecteur, si mon genre de vie n'avait été de la part de mes concitoyens l'objet d'enquêtes fort minutieuses, que d'aucuns diraient impertinentes, mais que, loin de prendre pour telles, je juge, vu les circonstances, très naturelles et tout aussi pertinentes. Les uns ont demandé ce que j'avais à manger, si je ne me sentais pas solitaire, si je n'avais pas peur, etc., etc. D'autres se sont montrés curieux d'apprendre quelle part de mon revenu je consacrais aux œuvres charitables. Et certains, chargés de famille, combien d'enfants pauvres je soutenais. Je prierai donc ceux de mes lecteurs qui ne s'intéressent pas à moi particulièrement de me pardonner si j'entreprends de répondre dans ce livre à quelques-unes de ces questions. En la plupart des livres, il est fait omission du « je » ou « première personne ». En celui-ci, le « je » se verra retenu. C'est, au regard de l'égotisme, tout ce qui fait la différence. Nous oublions ordinairement qu'en somme, c'est toujours la première personne qui parle. Je ne m'étendrais pas tant sur moi-même s'il était quelqu'un d'autre que je connusse aussi bien. Malheureusement, je me vois réduit à ce thème par la pauvreté de mon savoir. Qui plus est, pour ma part, je revendique de tout écrivain, tôt ou tard, le récit simple et sincère de sa propre vie, et non pas simplement ce qu'il a entendu raconter de la vie des autres hommes. Tel récit que, par exemple, il enverrait aux siens d'un pays lointain, car, s'il a mené une vie sincère, ce doit, selon moi, avoir été en un pays lointain. Peut-être ces pages s'adressent-elles plus particulièrement aux étudiants pauvres. Quant au reste de mes lecteurs, ils en prendront telle part qu'il leur revient. J'espère que nul, en passant l'habit, n'en fera craquer les coutures, car il se peut prouver d'un bon usage pour celui auquel il ira. Ce que je voudrais bien dire, c'est quelque chose non pointant concernant les Chinois et les habitants des îles Sandwich, que vous-même qui lisez ces pages, qui passez pour habiter la Nouvelle-Angleterre. Quelque chose sur votre condition, surtout votre condition apparente, ou l'état de vos affaires en ce monde, en cette ville, quelle que soit cette condition, s'il est nécessaire qu'elle soit si fâcheuse, si l'on ne pourrait, oui ou non, l'améliorer. J'ai pas mal voyagé dans Concord, et partout, dans les boutiques, les bureaux, les champs, il m'a semblé que les habitants faisaient pénitence de 1000 étranges façons. Ce que j'ai entendu raconter des Brahmines assis exposés au feu de 4 foyers, et regardant le soleil en face, ou suspendu la tête en bas, au-dessus des flammes, ou regardant au ciel par-dessus l'épaule, jusqu'à ce qu'il leur devienne impossible de reprendre leur position normale, alors qu'en raison de la torsion du cou, il ne peut leur passer que des liquides dans l'estomac. Ou habitants, enchaînés pour leur vie au pied d'un arbre, ou mesurant de leur corps, à la façon des chenilles, l'étendue de vastes empires, ou se tenant sur une jambe au sommet d'un pilier. Ces formes elles-mêmes de pénitence consciente ne sont guère plus incroyables et plus étonnantes que les scènes auxquelles j'assiste chaque jour. Les 12 travaux d'Hercule étaient vétilles en comparaison de ceux que mes voisins ont entrepris, car ils ne furent qu'au nombre de 12, et eurent une fin, alors que jamais je ne me suis aperçu que ces gens-ci aient égorgé ou capturé un monstre non plus que mis fin à un travail quelconque. Ils n'ont pas d'amis Iolas pour brûler avec un fer rouge la tête de l'hydre à la racine, et à peine est une tête écrasée, quand voilà deux surgir. Je vois des jeunes gens, mes concitoyens, dont c'est le malheur d'avoir hérité de fermes, maisons, granges, bétail et matériel agricole, attendu qu'on acquiert ces choses plus facilement qu'on ne s'en débarrasse. Mieux eût valu pour eux naître en plein herbage et se trouver allaités par une louve, afin d'embrasser d'un œil plus clair le champ dans lequel ils étaient appelés à travailler. Qui donc les a fait serfs du sol? Pourquoi leur faudrait-il manger leurs 60 acres quand l'homme est condamné à ne manger que son picotin d'ordures? Pourquoi, à peine ont-ils vu le jour, devraient-ils se mettre à creuser leur tombe? Ils ont à mener une vie d'homme, en posant toutes ces choses devant eux, et avancent comme ils peuvent. Combien ai-je rencontré de pauvres âmes immortelles, bien près d'être écrasées et étouffées sous leur fardeau, qui se traînaient le long de la route de la vie, en poussant devant elles une grange de 75 pieds sur 40, leurs écuries d'ogias jamais nettoyées, et 100 acres de terre, labour, prairie, herbage et partie de bois. Les sans-dotes, qui luttent à l'abri de pareils héritages comme de leurs inutiles charges, trouvent bien assez de travail à dompter et cultiver quelques pieds cubes de chair. Mais les hommes se trompent. Le meilleur de l'homme ne tarde pas à passer dans le sol sous forme d'engrais. Suivant un apparent destin communément appelé nécessité, il s'emploie, comme il est dit dans un vieux livre, à amasser des trésors que les vers et la rouille gâteront et que les larrons perceront et déroberont. Vie d'insensé, ils s'en apercevront en arrivant au bout, sinon auparavant. On prétend que c'est en jetant des pierres par-dessus leur tête que Deucalion et Pyrrha créèrent les hommes. Inde genus durum sumus, experiensque laborum, et documenta damus quasimus origine nati. D'où la race au cœur dur, souffrant peine et souci, preuve que de la pierre nos corps ont la nature. Tel est le fruit d'une aveugle obéissance à un oracle qui bafouille, jetant les pierres par-dessus leur tête derrière eux, et sans voir où elle tombait. En général, les hommes, même en ce pays relativement libre, sont tout simplement, par suite d'ignorance et d'erreur, si bien pris par les soucis factices et les travaux inutilement rudes de la vie, que ces fruits plus beaux ne savent être cueillis par eux. Ils ont pour cela, à cause d'un labeur excessif, les doigts trop gourds et trop tremblants. Il faut bien le dire, l'homme laborieux n'a pas le loisir qui convient à une véritable intégrité de chaque jour. Il ne saurait suffire au maintien des plus nobles relations d'homme à homme. Son travail en subirait une dépréciation sur le marché. Il n'a le temps d'être rien autre qu'une machine. Comment saurait-ce bien rappeler son ignorance, chose que son développement réclame, celui qui a si souvent à employer son savoir? Ce serait pour nous un devoir, parfois, de le nourrir et l'habiller gratuitement, et de le ranimer à l'aide de nos cordiaux avant d'en juger. Les plus belles qualités de notre nature, comme la fleur sur les fruits, ne se conservent qu'à la faveur du plus délicat toucher. Encore n'usons-nous guère à l'égard de nous-mêmes, plus qu'à l'égard les uns des autres, de si tendres traitements. Certains d'entre vous, nous le savons tous, sont pauvres, trouvent la vie dure, ouvrent parfois, pour ainsi dire, la bouche pour respirer. Je ne doute pas que certains d'entre vous qui lisez ce livre sont incapables de payer tous les dîners qu'ils ont bel et bien mangés, ou les habits et les souliers qui ne tarderont pas à être usés s'ils ne le sont déjà, et que c'est pour dissiper un temps emprunté ou volé que les voici arrivés à cette page, frustrant d'une heure leurs créanciers. Combien basse et rampante, il faut bien le dire, la vie que mènent beaucoup d'entre vous, car l'expérience m'a aiguisé la vue. Toujours sur les limites, tâchant d'entrer dans une affaire et tâchant de sortir de dette, bourbier qui ne date pas d'hier, appelé par les latins es alienum, airain d'autrui, attendu que certaines de leurs monnaies étaient d'airain. Encore que vivant et mourant, et enterré grâce à cet airain d'autrui. Toujours promettant de payer demain, et mourant aujourd'hui insolvable. Cherchant à se concilier la faveur, à obtenir la pratique de combien de façons, à part les délits punis de prison, mentant, flattant, votant, se rétrécissant dans une coquille de noix de civilité, ou se dilatant dans une atmosphère de légère et vaporeuse générosité, en vue de décider leurs voisins à leur laisser fabriquer ses souliers, son chapeau, son habit, sa voiture, ou importer pour lui son épicerie. Se rendant malade pour mettre de côté quelque chose en prévision d'un jour de maladie, quelque chose qui ira s'engloutir dans le ventre de quelque vieux coffre, ou dans quelque bas de laine derrière la maçonnerie, ou plus en sûreté, dans la banque de briques et de moellons. N'importe où, n'importe quelle grosse ou quelle petite somme. Je me demande parfois comment il se peut que nous soyons assez frivoles, si j'ose dire, pour prêter attention à cette forme grossière, mais quelque peu étrangère, de servitude appelée l'esclavage nègre, tant il est de fin et rusé maître pour réduire en esclavage le nord et le sud à la fois. Il est dur d'avoir un surveillant du sud. Il est pire d'en avoir un du nord. Mais le pire de tout, c'est d'être le commandeur d'esclaves de vous-même. Qu'allez-vous me parler de divinité dans l'homme ? Voyez le charretier sur la grande route, allant de jour ou de nuit au marché. Nulle divinité l'agite-t-elle ? Son devoir le plus élevé, c'est de faire manger et boire ses chevaux. Qu'est-ce que sa destinée, selon lui, comparée aux intérêts de la navigation maritime ? Ne conduit-il pas pour le compte de sieur allons fouette cocher ? Qu'a-t-il de divin ? Qu'a-t-il d'immortel ? Voyez comme il se tapit et rampe, comme tout le monde vaguement il a peur, n'étant immortel ni divin, mais l'esclave et le prisonnier de sa propre opinion de lui-même, renommée conquise par ses propres hauts faits. L'opinion publique est un faible tyran comparé à notre propre opinion privée. Ce qu'un homme pense de lui-même, voilà qui règle, ou plutôt indique, son destin. L'affranchissement de soi, quand ce serait dans les provinces des Indes occidentales du caprice et de l'imagination, où donc le Wilberforce pour en venir à bout. Songez, en outre, aux dames du pays qui font de la frivolité en attendant le jour suprême, afin de ne pas déceler un trop vif intérêt pour leur destin, comme si l'on pouvait tuer le temps sans insulter à l'éternité. La masse des hommes mène une vie de tranquille désespoir. Ce que l'on appelle résignation n'est autre chose que du désespoir confirmé. De la cité désespérée, vous passez dans la campagne désespérée, et c'est avec le courage du vison et du rat musqué qu'il vous faut vous consoler. Il n'est pas jusqu'à ce qu'on appelle les jeux et divertissements de l'espèce humaine qui ne recouvre un désespoir stéréotypé, quoique inconscient. Nul plaisir en eux, car celui-ci vient après le travail. Mais c'est un signe de sagesse que de ne pas faire des choses désespérées. Si l'on considère ce qui, pour employer les termes du catéchisme, est la fin principale de l'homme, et ce que sont les véritables besoins et moyens de l'existence, il semble que ce soit de préférence à tout autre que les hommes, après mûre réflexion, aient choisi le mode ordinaire de vivre. Toutefois, ils croient honnêtement que nul choix ne leur est laissé. Mais les natures alertes et saines ne perdent pas de vue que le soleil s'est levé clair. Il n'est jamais trop tard pour renoncer à nos préjugés. Nulle façon de penser ou d'agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. Ce que chacun répète en écho ou passe sous silence comme vrai aujourd'hui, peut demain se révéler mensonge, simple fumée de l'opinion, que d'aucuns avaient prise pour le nuage appelé à répandre sur les champs une pluie fertilisante. Ce que les vieilles gens disent que vous ne pouvez faire, l'essayant, vous apercevez que le pouvez fort bien. Aux vieilles gens, les vieux gestes, aux nouveaux venus, les gestes nouveaux. Les vieilles gens ne savaient peut-être pas suffisamment, jadis, aller chercher du combustible pour faire marcher le feu. Les nouveaux venus mettent un peu de bois sec sous un pot et les voilà emportés autour du globe avec la vitesse des oiseaux, de façon à tuer les vieilles gens, comme on dit. L'âge n'est pas mieux qualifié, à peine l'est-il autant, pour donner des leçons que la jeunesse, car il n'a pas autant profité qu'il a perdu. On peut à la rigueur se demander si l'homme le plus sage a appris quelque chose de réelle valeur au cours de sa vie. Pratiquement, les vieux n'ont pas de conseils importants à donner aux jeunes, tant a été partiale leur propre expérience, tant leur existence a été une triste erreur pour de particuliers motifs suivant ce qu'ils doivent croire. Et il se peut qu'il leur soit resté quelques fois capable de démentir cette expérience, seulement ils sont moins jeunes qu'ils n'étaient. Voilà une trentaine d'années que j'habite cette planète, et je suis encore à entendre de la bouche de mes aînés le premier mot de conseil précieux, sinon sérieux. Ils ne m'ont rien dit, et probablement ne peuvent rien me dire à propos. Ici, la vie, champ d'expérience de grande étendue inexplorée par moi, mais il ne me sert de rien qu'il l'ait explorée. Si j'ai fait quelques découvertes que je juge de valeur, je suis sûr, à la réflexion, que mes mentors ne m'en ont soufflé mot. Certains fermiers me déclarent « On ne peut pas vivre uniquement de végétaux, car ce n'est pas cela qui bouffait des os. » Sur quoi le voici qui, religieusement, consacre une partie de sa journée à soutenir sa thèse avec la matière première des os, marchant tout le temps qu'il parle derrière ses bœufs qui, grâce à des os de végétaux, vont le cahotant, lui et sa lourde charrue, à travers tous les obstacles. Il est des choses réellement nécessaires à la vie dans certains milieux, les plus impuissants et les plus malades, qui dans d'autres sont uniquement de luxe, dans d'autres encore totalement inconnus. Il semble à d'aucuns que le territoire de la vie humaine ait été en entier parcouru par leurs prédécesseurs, monts et veaux tout ensemble, et qu'il n'est rien à quoi l'on ait pris garde. Suivant Evelyn, le sage Salomon prescrivit des ordonnances relatives même à la distance des arbres, et les prêteurs romains ont déterminé le nombre de fois qu'il est permis, sans violation de propriété, d'aller sur la terre de son voisin ramasser les glands qui y tombent, ainsi que la part qui revient à ce voisin. Hippocrate a été jusqu'à laisser des instructions sur la façon dont nous devrions nous couper les ongles, c'est-à-dire au niveau des doigts, ni plus courts ni plus longs. Nul doute que la lassitude et l'ennui même qui se flattent d'avoir épuisé toutes les ressources et les joies de la vie ne soient aussi vieux qu'Adam. Mais on n'a jamais pris la mesure de capacité de l'homme, et on ne saurait, suivant nul précédent, juger de ce qu'il peut faire, si peu on a tenté. Quels qu'aient été jusqu'ici tes insuccès, ne pleure pas, mon enfant, car où donc celui qui te désignera la partie restée inachevée de ton œuvre ? Il est mille simples témoignages par lesquels nous pouvons juger nos existences, comme, par exemple, que le soleil qui mûrit mes haricots illumine en même temps tout un système de terre comme la nôtre. M'en fussais-je souvenu que cela m'eût évité quelques erreurs. Ce n'est pas le jour sur lequel je les ai sarclés. Les étoiles sont les sommets de quel merveilleux triangle. Quels êtres distants et différents dans les demeures variées de l'univers contemplent la même au même moment. La nature et la vie humaine sont aussi variées que nos divers tempéraments. Qui dira l'aspect sous lequel se présente la vie à autrui? Pourrait-il se produire miracle plus grand que pour nous de regarder un instant par les yeux les uns des autres? Nous vivrions dans tous les âges du monde sur l'heure. Que dis-je, dans tous les mondes des âges, histoire, poésie, mythologie. Je ne sache pas de leçon de l'expérience d'autrui aussi frappante et aussi profitable que le serait celle-là. Ce que mes voisins appellent bien, je le crois en mon âme pour la majeure partie être mal. Et si je me repens de quelque chose, ce doit fort vraisemblablement être de ma bonne conduite. Quel démon m'a possédé pour que je me sois si bien conduit? Vous pouvez dire la chose la plus sage que vous pouvez, vieillard, vous qui avez vécu 70 années, non sans honneur d'une sorte. J'entends une voix irrésistible m'attirer loin de tout cela. Une génération abandonne les entreprises d'une autre comme des vaisseaux échoués. Je crois que nous pouvons sans danger nous bercer de confiance un tantinet plus que nous ne faisons. Nous pouvons nous départir à notre égard de tout autant de soucis que nous en dispensons honnêtement ailleurs. La nature est aussi adaptée à notre faiblesse qu'à notre force. L'anxiété et la tension continue de certains est à bien peu de choses près une forme incurable de maladie. On nous porte à exagérer l'importance de ce que nous faisons de travail. Et cependant, qu'il en est de non fait pour nous. Et que serait-ce si nous étions tombés malades? Que vigilants nous sommes, déterminés à ne pas vivre par la foi si nous pouvons l'éviter. Tout le jour sur le qui-vive, le soir nous disons nos prières de mauvaise grâce et nous confions aux éventualités. Ainsi, bel et bien, sommes-nous contraints de vivre, vénérant notre vie et niant la possibilité de changement. C'est le seul moyen, déclarons-nous. Mais il est autant de moyens qu'il se peut tirer de rayons d'un centre. Tout changement est un miracle à contempler. Mais c'est un miracle renouvelé à tout instant. Confucius disait « Savoir ce que nous savons, ce que nous savons, et que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, en cela le vrai savoir. » Lorsqu'un homme aura réduit un fait de l'imagination à être un fait pour sa compréhension, j'augure que tous les hommes établiront enfin leurs existences sur cette base. Examinons un moment ce qu'en grande partie peuvent bien être le trouble et l'anxiété dont j'ai parlé, et jusqu'où il est nécessaire que nous nous montrions troublés, ou tout au moins soucieux. Il ne serait pas sans avantage de mener une vie primitive et de frontière, quoiqu'au milieu d'une civilisation apparente, quand ce ne serait que pour apprendre en quoi consiste le grossier nécessaire de la vie et quelle méthode on a employée pour se le procurer. Sinon de jeter un coup d'œil sur les vieux livres de comptes des marchands, afin de voir ce que c'était que les hommes achetaient le plus communément dans les boutiques, ce dont ils faisaient provision, c'est-à-dire ce qu'on entend par les plus grossières épiceries. Car les améliorations apportées par les siècles n'ont eu que peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence de l'homme. De même que nos squelettes, probablement, n'ont pas à se voir distingués de ceux de nos ancêtres. Par les mots « nécessaires de la vie », j'entends tout ce qui, fruit des efforts de l'homme, a été dès le début, ou est devenu par l'effet d'une longue habitude, si important à la vie humaine qu'il se trouvera peu de gens, s'il se trouve quiconque, pour tenter jamais de s'en passer, que ce soit à cause de vie sauvage, de pauvreté ou de philosophie. Pour maintes créatures, il n'existe en ce sens qu'un seul nécessaire de la vie, la nourriture. Pour le bison de la prairie, cela consiste en quelques pousses d'herbe tendre avec de l'eau à boire, à moins qu'il ne recherche le couvert de la forêt ou l'ombre de la montagne. Nul représentant de la gent animale ne requiert plus que le vivre et le couvert. Les nécessités de la vie pour l'homme en ce climat peuvent assez exactement se répartir sous les différentes rubriques de nourriture, couvert, vêtements et combustible. Car il faut attendre que nous nous le soyons assurés pour aborder les vrais problèmes de la vie avec liberté et espoir de succès. L'homme a inventé non seulement les maisons, mais les vêtements, mais les aliments cuits. Et il se peut que de la découverte accidentelle de la chaleur produite par le feu, et de l'usage qui en est la conséquence, luxe pour commencer, naquit la présente nécessité de s'asseoir près de lui. Nous voyons les chats et les chiens acquérir la même seconde nature. Grâce à un couvert et à un vêtement convenable, nous retenons légitimement notre chaleur interne. Mais avec un excès de cela, ou de combustible, c'est-à-dire avec une chaleur externe plus grande que notre chaleur interne, ne peut-on dire que commence proprement la cuisine? Darwin, le naturaliste, raconte à propos des habitants de la Terre de Feu que dans le temps où ses propres compagnons, tous bien vêtus et assis près de la flamme, étaient loin d'avoir trop chaud, on remarquait, à sa grande surprise, que ces sauvages nus qui se tenaient à l'écart ruisselait de sueur pour se voir de la sorte rôti. De même, nous dit-on, le néo-hollandais va impunément nu alors que l'européen grelotte dans ses vêtements. Est-il impossible d'unir la vigueur de ces sauvages à l'intellectualité de l'homme civilisé? Suivant Liebig, le corps de l'homme est un fourneau et les vivres l'aliment qui entretient la combustion dans les poumons. En temps froid, nous mangeons davantage, et moins en temps chaud. La chaleur animale est le résultat d'une combustion lente. Est-elle trop rapide que se produisent la maladie et la mort? Soit par défaut d'aliments, soit par vice de tirage, le feu s'éteint. Il va sans dire que la chaleur vitale n'a pas à se voir confondue avec le feu. Mais trêve d'analogie. Il apparaît donc, d'après le tableau qui précède, que l'expression « vie animale » est presque synonyme de l'expression « chaleur animale ». Car tandis que le vivre ou nourriture peut être considéré comme le combustible qui entretient le feu en nous, et le combustible ne sert qu'à préparer ce vivre ou à accroître la chaleur de nos corps par addition venue du dehors, le couvert et aussi le vêtement ne servent qu'à retenir la chaleur ainsi engendrée et absorbée. La grande nécessité donc pour nos corps est de se tenir chaud, de retenir en nous la chaleur vitale. Que de peine, en conséquence, nous prenons à propos non seulement de notre vivre et vêtements et couverts, mais de nos lits, lesquels sont nos vêtements de nuit, dépouillant nids et estomac d'oiseaux pour préparer ce couvert à l'intérieur d'un couvert, comme la taupe à son lit d'herbes et de feuilles au fond de son terrier. Le pauvre homme est habitué à trouver que ce monde en est un bien froid. Et au froid non moins physique que social, rattachons-nous directement une grande partie de nos maux. L'été, sous certains climats, rend possible à l'homme une sorte de vie paradisiaque. Le combustible, sauf pour cuire sa nourriture, lui devient alors inutile. Le soleil est son feu, et beaucoup parmi les fruits se trouvent suffisamment cuits par ses rayons. Tandis que le vivre, en général plus varié, se procure plus aisément, et que le vêtement ainsi que le couvert perdent totalement ou presque leur utilité. Au temps présent et en ce pays, si j'en crois ma propre expérience, quelques ustensiles, un couteau, une hache, une bêche, une brouette, etc., et pour les gens studieux, lampes, papeterie, accès à quelques bouquins, se rangent immédiatement après le nécessaire, comme ils se procurent tous à un prix dérisoire. Ce qui n'empêche d'aucun, non des plus sages, d'aller de l'autre côté du globe, dans des régions barbares et malsaines, se consacrer des 10 ou 20 années au commerce en vue de pouvoir vivre, c'est-à-dire se tenir confortablement chaud, et en fin de compte mourir dans la Nouvelle-Angleterre. Les luxueusement riches ne se contentent pas de se tenir confortablement chaud, mais s'entourent d'une chaleur contre nature. Comme je l'ai déjà laissé entendre, ils se font cuire, cela va sans dire, à la mode. Le luxe en général, et beaucoup du soi-disant bien-être, non seulement ne sont pas indispensables, mais sont un obstacle positif à l'ascension de l'espèce humaine. Au regard du luxe et du bien-être, les sages ont de tout temps mené une vie plus simple et plus frugale que les pauvres. Les anciens philosophes, chinois, hindous, persans et grecs, représentent une classe que pas une n'égala en pauvreté pour ce qui est des richesses extérieures, ni en richesse pour ce qui est des richesses intérieures. Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Il est étonnant que nous sachions d'eux autant que nous faisons. La même remarque peut s'appliquer aux réformateurs et bienfaiteurs plus modernes de leur race. Nul ne peut se dire impartial ou prudent observateur de la vie humaine qui ne se place sur le terrain avantageux de ce que nous appellerons la pauvreté volontaire. D'une vie de luxe, le fruit est le luxe, qu'il s'agisse d'agriculture, de commerce, de littérature ou d'art. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, mais pas de philosophe. Encore est-il admirable de professer pourquoi il fut jadis admirable de vivre. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Cela consiste à résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non pas en théorie seulement, mais en pratique. Le succès des grands savants et penseurs en général est un succès de courtisan, ni royal, ni viril. Ils s'accommodent de vivre tout bonnement selon la règle commune, presque comme faisait leur père, et ne se montrent en nul sens les procréateurs d'une plus noble race d'hommes. Mais comment se fait-il que les hommes sans cesse dégénèrent? Qu'est-ce qui fait que les familles s'éteignent? De quelle nature est le luxe qui énerve et détruit les nations? Sommes-nous bien sûrs qu'il n'en soit pas de trace dans notre propre existence? Le philosophe est en avance sur son siècle jusque dans la forme extérieure de sa vie. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se veine et ne se chauffe comme ses contemporains. Comment pourrait-on se dire philosophe à moins de maintenir sa chaleur vitale suivant de meilleurs procédés que les autres hommes? Lorsqu'un homme est chauffé suivant les différents modes que j'ai décrits, que lui faut-il ensuite? Assurément, nul surcroît de chaleur du même genre, ni nourriture plus abondante et plus riche, maison plus spacieuse et plus splendide, vêtements plus beaux et en plus grand nombre, feux plus nombreux, plus continus et plus chauds, et le reste. Une fois qu'il s'est procuré les choses nécessaires à l'existence, s'offre une autre alternative que de se procurer les superfluités, et c'est de se laisser aller maintenant à l'aventure sur le vaisseau de la vie, ses vacances loin d'un travail plus humble ayant commencé. Le sol, semble-t-il, convient à la semence, car elle a dirigé sa radicule de haut en bas, et voici qu'en outre, elle peut diriger sa jeune pousse de bas en haut avec confiance. Pourquoi l'homme a-t-il pris si fermement racine en terre, sinon pour s'élever en semblable proportion là-haut dans les cieux? Car les plantes nobles se voient prisées pour le fruit qu'elles finissent par porter dans l'air et la lumière, loin du sol, et reçoivent un autre traitement que les comestibles plus humbles, lesquels, tout biennaux qu'ils puissent être, se voient cultivés seulement jusqu'à ce qu'ils aient parfait leurs racines, et souvent coupés au collet à cet effet, de sorte qu'en général on ne saurait les reconnaître au temps de leur floraison. Je n'entends pas prescrire de règles aux natures fortes et vaillantes, lesquelles veilleront à leurs propres affaires tant au ciel qu'en enfer, et peut-être bâtiront avec plus de magnificence, et dépenseront avec plus de prodigalité que les plus riches, sans jamais s'appauvrir, ne sachant comment elles vivent, s'il en est à vrai dire tel qu'on en a rêvé. Non plus qu'à ceux qui trouvent leur courage et leur inspiration précisément dans le présent état de choses, le choix avec la tendresse et l'enthousiasme d'amoureux. Et jusqu'à un certain point, je me reconnais de cela. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont un bon emploi, quelles qu'en soient les conditions, et ils savent s'ils ont un bon emploi ou non, mais principalement à la masse de mécontents qui vont se plaignant avec indolence de la dureté de leur sort ou des temps, quand ils pourraient les améliorer. Il en est qui se plaignent de tout de la façon la plus énergique et la plus inconsolable, parce qu'ils font, comme ils disent, leur devoir. J'ai en vue aussi cette classe opulente en apparence, mais de toutes la plus terriblement appauvrie, qui a accumulé la scorie et ne sait comment s'en servir ou s'en débarrasser, ayant ainsi de ses mains forgé ses propres chaînes d'or ou d'argent. Si je tentais de raconter comment j'ai désiré employer ma vie au cours des années passées, il est probable que je surprendrais ceux de mes lecteurs quelque peu au courant de mon histoire actuelle. Il est certain que j'étonnerais ceux qui n'en connaissent rien. Je me contenterai de faire allusion à quelques-unes des entreprises qui ont été l'objet de mes soins. En n'importe quelle saison, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je me suis inquiété d'utiliser l'encoche du temps et d'en ébrécher en outre mon bâton, de me tenir à la rencontre de deux éternités, le passé et l'avenir, laquelle n'est autre que le moment présent, de me tenir de l'orteil sur cette ligne. Vous pardonnerez quelques obscurités, attendu qu'il est en mon métier plus de secret qu'en celui de la plupart des hommes, secret toutefois non volontairement gardé, mais inséparable de son caractère même. J'en dévoilerai volontiers tout ce que j'en sais, sans jamais peindre défense d'entrée sur ma barrière. Je perdis, il y a longtemps, un chien de chasse, un cheval bai et une tourterelle, et suis encore à leur poursuite. Nombreux sont les voyageurs auxquels je me suis adressé à leur sujet, les décrivant par leurs empreintes et par les noms auxquels ils répondaient. J'en ai rencontré un ou deux qui avaient entendu le chien, le galop du cheval, et même vu la tourterelle disparaître derrière un nuage. Ils semblaient aussi soucieux de les retrouver que si ce fussent eux-mêmes qui les eussent perdus. Anticipons, non point simplement sur le lever du soleil et l'aurore, mais si possible sur la nature elle-même. Que de matin, été comme hiver, avant que nul voisin fût à vaquer à ses affaires, déjà l'étais-je à la mienne. Sans doute, nombre de mes concitoyens m'ont-ils rencontré revenant de cette aventure, fermiers partant à l'aube pour Boston, ou bûcherons se rendant à leur travail. C'est vrai, je n'ai jamais assisté de façon effective le soleil en son lever, mais, n'en doutez pas, il était de toute importance d'y être seulement présent. Que de jours d'automne, oui, et d'hiver, ai-je passé hors de la ville à essayer d'entendre ce qui était dans le vent, l'entendre et l'emporter bien vite. Je faillis y engloutir tout mon capital et perdre le souffle par-dessus le marché, courant à son encontre. Cela eût-il intéressé l'un ou l'autre des partis politiques, en eût-il dépendu, qu'on l'eût vu paraître dans la Gazette avec les nouvelles du matin. À d'autres moments, guettant de l'observatoire de quelque rocher ou de quelque arbre, pour télégraphier n'importe quelle nouvelle arrivée. Ou le soir, à la cime des monts, attendant que le ciel tombe, pour tâcher de surprendre quelque chose, quoique ce que je surpris ne fût jamais abondant, et, à l'instar de la manne, refondit au soleil. Longtemps je fus reporter d'un journal à tirage assez restreint, dont le directeur n'a jamais encore jugé à propos d'imprimer le gros de mes articles. Et comme il est trop ordinaire avec les écrivains, j'en fus uniquement pour mes peines. Toutefois, ici, en mes peines, résida ma récompense. Durant nombre d'années, je fus inspecteur, par moi-même appointé, des tempêtes de neige comme des tempêtes de pluie, et fis bien mon service. Surveillant, sinon des grandes routes, du moins des sentiers de forêt, ainsi que de tout chemin à travers les lots de terre, veillant à les tenir ouverts, et à ce que les ponts jetés sur les ravins rendissent ceux-ci franchissables en toute saison, là où le talon public avait témoigné de leur utilité. J'ai gardé le bétail sauvage de la ville, lequel, en sautant par-dessus les clôtures, n'est pas sans causer de l'ennui aux pâtres fidèles. Et j'ai tenu un œil ouvert sur les coins et recoins non fréquentés de la ferme, bien que parfois, sans savoir lequel, de Jonas ou de Salomon, travaillait aujourd'hui dans tel champ, ce n'était pas mon affaire. J'ai arrosé la rouge Gelusacie, le ragouminier et le micocoulier, le pin rouge et le frêne noir, le raisin blanc et la violette jaune, qui, autrement, auraient dépéri au temps de la sécheresse. Bref, je continuais de la sorte longtemps, je peux le dire sans me vanter, à m'occuper fidèlement de mon affaire, jusqu'au jour où il devint de plus en plus évident que mes concitoyens ne m'admettraient pas, après tout, sur la liste des fonctionnaires de la ville. Pas plus qu'il ne ferait de ma place une sinécure pourvue d'un traitement raisonnable. Mes comptes, que je peux jurer avoir tenus avec fidélité, jamais je n'arrivais, je dois le dire, à les voir apurés, encore moins acceptés, moins encore payés et réglés. Cependant, je ne me suis pas arrêté à cela. Il y a peu de temps, un Indien nomade s'en alla proposer des paniers chez un homme de loi bien connu dans mon voisinage. « Voulez-vous acheter les paniers ? » demanda-t-il. « Non, nous n'en avons pas besoin, » lui fut-il répondu. « Et quoi ? » s'exclama l'Indien en s'éloignant. « Allez-vous nous faire mourir de faim ?» Ayant vu ces industrieux voisins blancs si à leur aise, que l'homme de loi n'avait qu'à tresser des arguments, et que par l'effet d'on ne sait quelle sorcellerie il s'ensuivait argent et situation, il s'était dit « Je vais me mettre dans les affaires, je vais tresser des paniers, ces choses à ma portée. » Croyant que lorsqu'il aurait fait les paniers, il aurait fait son devoir, et qu'alors ce serait celui de l'homme blanc de les acheter. Il n'avait pas découvert la nécessité pour lui de faire en sorte qu'il valût la peine pour l'autre de les acheter, ou tout au moins de l'amener à penser qu'il en fût ainsi, ou bien de fabriquer quelque chose autre que l'homme blanc crut bon d'acheter. Moi aussi j'avais tressé une espèce de panier d'un travail délicat, mais je n'avais pas fait en sorte qu'il valût pour quiconque la peine de les acheter. Toutefois, n'en pensais-je pas moins, dans mon cas, qu'il valait la peine pour moi de les tresser, et, au lieu d'examiner la question de faire en sorte que les hommes crussent bon d'acheter mes paniers, j'examinais de préférence celle d'éviter la nécessité de les vendre. L'existence que les hommes louent et considèrent comme réussie n'est que d'une sorte. Pourquoi exagérer une sorte aux dépens des autres ?